d'avenir la transcription, c'est d'abord un travail d'acquisition de données. À ce moment-là, c'était pour faire mon propre corpus de recherche, hein, pour avoir fait 200 ou 300 textes qui allaient nous servir pour ma thèse. Mais c'était important de pouvoir chercher dans ces textes et d'avoir un ordinateur. Alors, en même temps, à cette époque-là, nous avions sont parus dans ces années-là des concordances, notamment pour les grands auteurs, pas pour tous, mais pour les grands auteurs. Et donc, nous avions déjà jonglé avec les concordances. L'usage des concordances est très ancien, c'est commencé par les concordances de la Bible, notamment à partir du 16e siècle. Et les grands auteurs de Fontaine, Rabelais, Marguerite de Navarre, de Pouillet, avaient été transcrits à ce moment-là. Ce n'était pas du tout sur des PC, hein, c'était vraiment sur des micro-ordinateurs. Donc, c'était une technologie très lourde à laquelle nous n'avions absolument pas accès. Tout ce que nous récupérions, c'était des fichiers normatifs en DOS, mais sur lesquels on pouvait, à partir desquels on pouvait quand même faire des recherches de chaînes de caractères, sans plus. Donc, les collègues ont fait des livres qui s'appellent des concordances. Et pour Montaigne, par exemple, qui était réalisé à Oxford, on a pu récupérer les bandes magnétiques et la transcription de ces bandes magnétiques. Donc, on a eu des essais assez rapidement, mais c'était à partir d'une édition moderne des essais de Montaigne. Donc, l'édition qu'on appelle établie, c'est-à-dire quelque peu modifiée par rapport à l'original. En parallèle, j'ai travaillé entre 1991 à alimenter la base Frontex. Vous connaissez la base Frontex, l'agence pour le traitement informatique de la langue française à Nancy. Pas du tout. C'est une base de textes français, principalement de textes littéraires, donc de 1500 jusqu'à nos jours, à laquelle vous avez accès en tant qu'étudiant de l'Université de Tours, parce que c'est sur abonnement, et donc vous travaillez avec ces textes-là, mais qui ont tous été scannés, saisis et normés à partir d'éditions modernes. Donc moderne est plus ou moins proche de l'original, et souvent ce sont les éditeurs papier qui ont imposé leurs contraintes pour le système d'édition. Donc, cette base française, nous avons alimenté de différents enseignants à ce moment-là. En fait, au XVIe siècle, et à peu près, si mes derniers comptes sont justes, à peu près les deux tiers viennent de cette période-là. Mais en même temps que ce travail est fait pour le CNRS, hein, puisque l'IDAC, l'ATIF, le moment actuel, est un gros laboratoire du CNRS. En parallèle, on s'est aperçu que si on voulait faire des recherches sur l'histoire de la langue, sur l'histoire de l'orthographe, sur l'histoire de la notion de phrase, notamment pour les traitements linguistiques de la langue française, il fallait partir des textes originaux, soit des manuscrits, on en a rarement pour cette période-là, et surtout des éditions d'époque. Donc finalement, pour Rabelais, hein, par exemple, on peut revenir aux éditions, aux exemplaires de référence, hein, exemplaires qui étaient tous à ce moment-là à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est un travail de retour en arrière qui est maintenant absolument admis, mais ça n'était pas le cas dans les années 90, on pensait les collègues littéraires, même les historiens, qui aussi sont souvent des éditeurs de texte, et qui constituent aussi des corpus textuels, avaient dans l'idée que finalement, que ce soit écrit comme ça ou autrement, ça n'avait pas tellement d'importance, et donc se permettait de modifier les textes, de modifier la composition, modifier évidemment l'orthographe, parfois aussi de modifier la langue. Alors c'est un peu dommage, parce que ça limite un type de recherche. Et c'est vrai que de revenir à un texte original, ça complique un peu. C'est plus simple quand on a tout en français moderne. Déjà, le traitement du français moderne, c'est mal orthographié, ça n'est pas si simple. Et quand c'est l'orthographe, ce sont des graphies du XVIe siècle, ça met encore davantage. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'avoir des graphies historiques parce que ça peut permettre d'identifier des textes qui sont restés anonymes, par exemple. Hein. Donc, on peut ces petits détails sont des éléments, des indices aussi, parfois pour attribuer un texte à un éditeur ou à un auteur. Donc ce travail-là, ce retour aux textes originaux, il est arrivé maintenant, mais ça fait quand même un certain temps avant justement de considérer que ces informations-là ne devaient pas être opérées. Alors ensuite, quand je suis enseignée à Poitiers, j'ai trouvé avec des collègues ici qui s'appelle Élise Thébon, qui est encore à Tours. Et là, il s'agissait tout simplement de mettre les textes du 16e siècle avec toujours le même principe, constituer un corpus pour tout le monde et le mettre en ligne, donc en HTML. Donc il y avait effectivement quelques textes, c'était tout simple, le HTML de cette époque, on faisait ça avec Netscape, mais ça permettait déjà de manipuler des balises très simples que vous connaissez, hein, les balises de fin de ligne, les balises de fin de page, etc. Donc, cette familiarisation avec l'encodage HTML était en formation intéressante. Et puis ensuite, à partir de la création des bibliothèques virtuelles humanistes à Tours, au centre de la Renaissance, la partie épistémique, c'est-à-dire la partie textuelle, s'est constituée et est toujours en cours de constitution. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là, cet historique? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais détailler un peu ce que c'est que l'épistémon par rapport au BDH, mais je vais y revenir. Ce sont des textes en français de la Renaissance, en français, tel qu'on l'a trouvé dans des livres anciens et d'époque, qui ont été transcrits et édités. Je reviendrai sur cette différence entre la transcription et l'édition, mais notamment pour les grands auteurs, hein, comme vous voyez là, Rabelais, Montaigne, Isabelle, Ronsard, Baudelaire, les anonymes, etc. Donc, la transcription à l'édition numérique et la récupération de ces anciennes transcriptions en HTML pour les encoder en XML QI à partir de 2017. Alors, on a mis quand même un certain temps à se familiariser avec la TQI, c'est-à-dire un système d'encodage de texte en code et digitif, qui fait partie maintenant le standard principal pour l'édition numérique des textes, pour la transcription et l'édition numérique des textes, que ce soit ancien ou moderne, hein, quel qu'il soit, avec des balises sur lesquelles une communauté internationale s'est mise d'accord, de façon à utiliser la même balise, le même code, que ce soit pour justement une famille, une fin de page, ou pour marquer une erreur, une correction, etc. Donc, c'est entre 2004 et 2007 que nous-mêmes nous sommes formés avec les étudiants du master patrimoine écrit et édition numérique, qu'on avait fondé en même temps, hein, et donc on faisait venir des spécialistes de l'encodage en TQI. Nous avons mis au point l'encodage spécifique pour les textes de la Renaissance. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire l'encodage pour des textes modernes. Donc, vous voyez, entre 2014 et 2017, un certain nombre de textes ont augmenté ce corpus. Je reviendrai sur la notion de corpus après. En novembre dernier, il y avait 151 textes en ligne, notamment à cause aussi des textes qui viennent du corpus Montaigne. Et nous avons encore beaucoup de textes, 70 textes en attente, c'est-à-dire qu'ils sont à l'état brut, mais pas encodés, pas encore prêts pour l'édition en ligne. Alors, un élément important quand je parle d'édition en ligne, de constitution de corpus, pour moi, c'est évident depuis le début, c'est-à-dire effectivement depuis les années 85-86, toutes ces transcriptions, toutes ces mises à disposition de textes sont faites pour être accessibles à tout le monde. Donc, au début, d'ailleurs, on avait pensé plus que c'était ROM, hein, dans les années 90, c'était pas du tout évident. Le système du web était en train de se mettre en place, c'est surtout les scientifiques, pour que ça arrive un peu plus tard. Et donc, cette disponibilité des textes, elle se faisait par transmission de disquettes, hein, de disquettes ou de CD-ROM. Donc, cette ouverture des données, elle vient non seulement de la volonté de partage de ce qu'on a pu faire, de ce travail, cette constitution de corpus, mais aussi sur le fait que ce travail a été payé sur des fonds publics. Alors, soit par nos salaires, par les salaires des enseignants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, les salaires des étudiants qu'on a payés pour ça, si les étudiants n'ont pas été payés pour ça, parce que c'est partie de leur cursus politique, leur bureau et on le dit, la provenance. Donc c'est cette ouverture des données, c'est là que je vais parler de corpus ouvert. Ce n'est pas tout à fait le cas de la base complexe, malheureusement. Il y a une partie du corpus complexe qui est en train de s'ouvrir, mais pas pour cette période-là, hein, ce sont pour les textes plus récents. Alors, donc, les bibliothèques virtuelles humanistes, c'est un ensemble plus vaste que la base du système. Donc, le DDH, ce n'est pas un corpus, au sens où je l'entends moi. C'est une base de données, une base de données de facilité. Alors, de facilité, mais aussi, ça inclut maintenant la base des systèmes. Principalement, au début, il s'agissait de numériser de façon qualitativement supérieure les ouvrages anciens qu'on avait sélectionnés en région centre, dans les bibliothèques de la région centre. Pourquoi c'était bon limité à la région centre? C'est parce que c'est la région centre qui nous payait. Enfin, pas nous payer nous directement, pas de salaire, mais encore que pour certains contractuels, c'était le cas. Mais parce que les premiers financements sont venus de la région. Donc c'est normal que ce soit intéressé à mettre en valeur les bibliothèques de Tours, d'Orléans, c'est la première grande campagne qu'on a faite, la bibliothèque du centre de la Renaissance, qui a aussi des livres anciens, des bibliothèques plus petites mais intéressantes, comme Bordeaux, Jean de Rosebrou, après on est allé à Tours, Écharpe, etc. Donc il y a certaines bibliothèques qui ont brûlé pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour Écharpe. Donc il y a de très grosses pertes, mais il y a encore des fonds considérables à Orléans en particulier et à Tours. Donc il y a aussi des fonds anciens à Châteauroux, même dans des très petites villes, hein, comme par exemple. Donc ce sont des facsimilés sélectionnés. Donc le travail de sélection prend du temps, parce qu'il faut faire de boucles avec la grande base Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Au début, on se dit qu'on va prendre des exemplaires qui ne sont pas traités par la Bibliothèque nationale. Et surtout, on va s'intéresser à des exemplaires qui ont quelque chose de particulier. Donc, c'est un début. Ce qui fait que, effectivement, ce n'est pas de la numérisation de type Google. Pas du tout. Hein. C'est une numérisation déjà sélectionnée, alors que les numérisations faites par Google sont des numérisations étagères par étagère. Hein. Ce sont des centaines et des milliers d'images qui sont numérisées dans des campagnes. Ils sont numériquement extrêmement importants, mais ça n'a rien à voir avec la sélection que l'on faisait. Et c'est justement la différence avec ce qui peut devenir un corpus. Un corpus, c'est une chose. Alors, pour les facsimilés, ce n'est pas exactement un corpus, c'est un ensemble qui a pour caractéristique de porter sur des livres qui ont été édités à la Renaissance, pas forcément d'auteurs de la Renaissance. Ça peut être un livre d'Homère, édité à la Renaissance. C'est surtout le livre lui-même qui sert de référence. Alors, le dépistement, c'est la base de données textuelle, donc le texte en mode texte, alors que la cité reste en mode image. Et en revanche, à l'intérieur des dépistements, on va avoir des corpus, notamment Rabelais et Montaigne, dont je vais vous parler un peu plus longuement. Alors, pour schématiser cet ensemble-là, on voit très bien les couleurs, hein, pour voir un peu à la fois comment se répartissent les programmes, à l'intérieur du programme DDH, donc les particuliers, les systémons, et ce qui commence à devenir corpus, c'est justement bâtir, c'est la base typographique qui a été élaborée, qui va continuer à être élaborée par Rémi Gignès, le maître de conférence au centre de la Renaissance, les minutes notariales qui sont maintenant dans le projet Rémi Mar, d'une base iconographique des malus divers, on a justement la lunette de Rabel et Fay par exemple, et des archives, et là aussi, qui rejoignent le projet RNUMAR. Donc on a là quelque chose qui commence à ressembler à des corpus. Et c'est vrai que ce sont des corpus d'auteurs pour nous, hein, parce qu'effectivement, l'origine, c'est une demande des projets de littéraires, aux historiens de livres, hein, qui a les deux aussi. C'est principalement Rabelais, donc avec un corpus qui est formé de plusieurs projets qui ont été financés par la région centre, par Biblicita, dont on parlera après. Donc, par la région centre, c'est Rabelais et Renon, donc les projets qui sont sur Rabelais. Et Corporel, c'est l'équipe de ce Biblicima. Pour Montaigne, le financement vient aussi de Biblicima. Pardon, Corporel, c'est PSN5, alors c'est une institution ministérielle, le ministère de la Recherche, qui, pas qu'elle a disparu, mais qu'elle n'a plus ce nom-là actuellement. Et donc, le ministère de la Recherche encourage aussi la constitution de corpus. Expressément, et après, et surtout Montaigne, on a pu compléter les financements avec ce qui venait justement du ministère de la Recherche. Et puis, un projet ANR, donc de l'Agence nationale de la recherche, hein, c'est assez facile d'avoir des financements qui viennent de cette agence, et qui s'appelle. Alors, maintenant, essayer de définir ce qu'est un corpus, hein, comporter différents types de données. Alors, historiquement, la notion de corpus et même le nom de corpus a une histoire et a une origine. C'était les premiers textes qui se sont appelés corpus, c'est le corpus de Justinien. C'est du droit, hein. Les juristes connaissent effectivement le corpus de Justinien et les textes juridiques qui forment un ensemble un peu hétérogène, hein, mais qui a servi pendant des siècles à la base de l'étude du droit, et notamment du droit civil. Hein. C'est important, même si ce n'est pas tout de Justinien d'ailleurs. Hein. L'important, c'est que ce soit un corpus qu'à l'époque on devait apprendre quasiment par cœur. Hein. Au Moyen-Âge, donc, on a commencé à appeler corpus des œuvres complètes d'un auteur, alors notamment pour les. Puisque ces œuvres complètes d'un auteur formaient comme un corps, c'est-à-dire qu'il y a un caractère organique, rassemblé comme dans un corps. Et à la Renaissance, on va avoir effectivement cette tradition qui va se continuer, avec les opéras, les œuvres en latin, les œuvres aussi dans la tradition française, et puis quelque chose qu'on appelle l'école, les bibliothécaires. Des bibliothèques, il n'y a pas des bibliothèques au sens étagère, pas des bibliothèques au sens bâtiment, mais des bibliothèques au sens l'ensemble des livres qu'il y a chez moi. J'ai ça dans ma bibliothèque, ça ne veut pas forcément dire que j'ai désigné la pièce avec les étagères, mais que ce sont les livres que vous avez acquis et qui forment votre. Voilà. Alors, généralement, ces opérants, ces bibliothécaires, ces corporats, pluriel en latin corpora, en français on va dire des corpus, contrairement aux anglo-saxons, nous n'avons pas le pluriel latin officiel, généralement ces corporats n'étaient pas l'œuvre de l'auteur lui-même. Moi, il est mort depuis très longtemps. Mais il était fait par un disciple, par plusieurs disciples, par toute une équipe. Alors évidemment, pour les pères de l'Église, c'était souvent dans les ordres de Dieu, ou un éditeur qui va prendre sur lui de rassembler des œuvres, et notamment de faire des livres et des vendre. Alors au 19e et 20e siècle, c'est là qu'apparaissent les grands corpus qui vont avoir ce nom, notamment le corpus épigraphique, le corpus des inscriptions. Très important pour les archéologues et pour les historiens, parce que le fait d'avoir retranscrit des inscriptions au XIXe siècle, parfois recopié des inscriptions qui avaient été faites dans les siècles précédents et qui avaient été perdues, parce que les bâtiments avaient été détruits, par exemple, ou les incendies, enfin, toutes les catastrophes qu'on peut imaginer, et certaines des inscriptions qui existaient encore au 19e siècle ont même, pour un certain nombre, disparu encore depuis. Donc c'est important d'avoir ces traces encore plus épigraphiques, c'est-à-dire d'inscriptions sur la pierre et la sonnette. Donc archéologique et linguistique. Les linguistes sont parmi ceux-ci les premiers, on pourrait dire avec les archéologues, à cette époque, il fallait constituer des corpus pour pouvoir étudier une langue, voire plusieurs, à partir d'un ensemble de textes suffisamment important pour que ce soit significatif. C'est ce rassemblement de textes, d'abord par langue, hein, des grands corpus linguistiques nationaux. Vous avez le corpus britannique, vous avez le corpus français pour la France, et puis chaque nation a son ensemble de textes de référence. Pourquoi? Parce que ça permet surtout de sécréter maintenant les bases de données, pouvoir exploiter systématiquement les ensembles. Alors, les ensembles de textes, mais pas seulement. Hein, pour les archéologues, ce sont les ensembles d'objets aussi. Hein, ça peut être pour les historiens de l'art, ça peut être les ensembles d'œuvres d'art. Donc, la notion de corpus, elle est bien plus large que celle du corpus textuel. C'est ça que je vais parler principalement, parce que c'est ce que je connais mieux. Mais, bien sûr, chaque discipline va avoir ses objets de référence et constituer des corpus par rapport à ses objets de référence. Bien. Un corpus, par exemple, d'ethnomusicologie, vous allez avoir des enregistrements, principalement. Vous allez avoir des corpus oraux qui vont être aussi des enregistrements ou des transcriptions d'enregistrements. Vous allez avoir, bien sûr, des corpus en histoire de l'art et dans tous les domaines en ethnologie aussi, également. Des corpus de donc, les traitements informatiques doivent être effectués par les outils appropriés, hein, donc, par les balisages tout à l'heure avec la PMI, de façon à automatiser le plus possible et à faire moins de travail laborieux, manuel possible, et surtout permettre d'effectuer des requêtes. Ça ne sert à rien de constituer un corpus, on ne peut pas chercher dedans. Alors, on a pour les corpus textuels, même si on n'a pas d'outils très élaborés, du moment que c'est la chaîne de caractères, on peut plus chercher les chaînes de caractères. Maintenant, c'est mieux si les corpus sont utilisés et si vous pouvez cibler votre requête pour ne pas avoir trop de résultats, pour avoir des résultats qui soient particulièrement pertinents. Alors, on peut dire que pour les corpus textuels, c'est le corpus cristallorum, c'est-à-dire le corpus des éditions récentes, des Pères de l'Église qui a servi de référence, parce que c'est l'un des premiers, effectivement, qui a été mis à disposition des chercheurs, des gens qui travaillent sur l'histoire de religion en particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas gratuit. Hein, c'est un éditeur, et cet éditeur a fait payer les livres et qu'on a fait payer l'accès aux bases de données, d'ailleurs, l'accès via l'université à la bibliothèque. Donc, pour qu'il y ait corpus, il faut que l'ensemble présente une cohérence dans son objet. C'est-à-dire, alors on peut avoir des corpus avec des objets de nature très différente, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans la. Dans le projet qu'ils ont fait derrière le corpus. Hein. Donc, ce n'est pas forcément des objets qui ont tous la même forme. Vous pouvez avoir un corpus dans lequel vous allez avoir des objets archéologiques et vous allez avoir des textes. Hein. Et vous allez avoir des enregistrements. Hein. Pourquoi pas, hein. C'est vraiment le projet scientifique hein, qui va construire l'idée du corpus. Alors, pour un corpus d'auteur, hein, on peut avoir effectivement des œuvres littéraires, hein, ce que l'auteur a écrit. D'œuvres littéraires, quantitatives, etc., mais vous pouvez aussi mettre dans ce corpus des pièces documentaires qui ne sont pas particulièrement littéraires. Hein. Vous avez effectivement la lettre de Montaigne au futur Henri IV, hein, ce n'est pas du tout le statut des essais. Il n'empêche que c'est intéressant de pouvoir avoir accès à ces lettres. Alors, on en a perdu la plupart, hein, mais il en reste quand même quelques-unes. Donc c'est intéressant pour comprendre aussi les initiales, les historiques, etc. Donc il faut parler des images hein, aussi, bien sûr, des images avec des photos, ça peut être des photos du château de Montaigne avant qu'il ait été installé, ou des photos du château maintenant, des photos satellites, des photos dans le sens général du terme. Donc tout cela peut effectivement rentrer dans le corpus, et on peut se demander d'ailleurs à quel moment ça s'arrête. Est-ce qu'un film sur Montaigne fait partie du corpus Montaigne? C'est ce qu'on peut trouver. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les requêtes. Un corpus, ça n'est pas du vrac. C'est fait pour être cherché, pour être fouillé, pour être réutilisé par d'autres. Donc, il faut qu'il y ait quand même un minimum de description de ce qu'il y a dedans pour que ce soit utilisé. Donc, les requêtes se font soit sur les métadonnées. Vous savez tous ce que c'est que les métadonnées. Dans la documentation, c'est ce que c'est enfin, ce qu'il va y avoir comme description du champ. Par exemple, quand vous soumettez un livre à la bibliothèque, vous avez une série, vous avez une description du volume, qui dit l'auteur, la date, etc., bon, un certain nombre de champs. Dans la documentation, vous aurez aussi des métadonnées, enfin, si c'est un objet archéologique, vous aurez des métadonnées qui pourraient associer cet objet archéologique, hein, qui l'a fait, enfin, ce dont il y a, évidemment, qui l'a trouvé, quand, etc., et puis, des liens avec des éléments géographiques. Donc les métadonnées, tout objet a des métadonnées, c'est ce qui permet de les situer dans l'espace et dans le temps, donc ça c'est fondamental. Après, chaque discipline organise ses métadonnées à sa manière, donc c'est pas évidemment toujours tout à fait compatible, mais on essaye justement. Il y a des grandes organisations internationales qui essaient de faire en sorte que tout le monde appelle de la même façon un auteur, un lieu, etc. Là aussi, avec des champs qui soient reconnus, alignés les uns avec les autres. Donc, soit, effectivement, on fait les requêtes sur les métadonnées, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le corpus lui-même, on rentre dans la description du corpus. C'est déjà une entrée, c'est bien fait, c'est déjà un élément important. Donc, ça veut dire que c'est ce que vous faites quand vous cherchez un auteur, un ouvrage, dans un catalogue. Rentrer, non pas dans le livre, mais sauf s'il y a une option accès au texte intégral, ce n'est pas toujours le cas, et de rentrer dans le livre par les métadonnées. Alors, soit sur les données natives ou homogènes construites, hein, donc effectivement, quand il y a un accès au texte en intégral, il faut qu'il y ait quand même un minimum de préparation du corpus pour que ça ressemble à quelque chose. Donc, natives ou homogènes, c'est-à-dire que ceux qui ont pensé, qui ont construit le corpus, vont faire un effort pour que continuité ou homogénéité dans les différentes données. Alors, soit sur les deux à la fois, hein, c'est les métadonnées. On peut choisir, mais si on cherche dans les métadonnées ou dans le texte intégral ou dans le généralisé, c'est le cas pour la base des données. Alors, petite anecdote, hein, en France, on a commencé à créer un corpus, à donner ce nom de corpus à un corpus d'auteurs en 1958. Donc, c'est relativement récent. Et donc, c'est Raymond Picard, parce que c'est le livre de Racine, qui a parlé de corpus Racinianum, donc corpus des œuvres de Racine, hein, on peut traduire comme ça. Et immédiatement après, on a eu la parodie de cette invention. Je ne sais pas si vous connaissez le Collège de Pataphysique, mais vous connaissez peut-être Raymond Queneau. Vous connaissez peut-être, c'est la lignée de l'Alfred Jarry, des pataphysiciens de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui étaient des personnes extrêmement lettrées, et notamment qui savaient très bien le latin et le grec, et qui s'amusaient beaucoup avec ça. Et bon, l'actuel mouvement littéraire de Boutou est aussi issu de ces auteurs. Donc voilà, ils sortent en parodie. Le corpus racinien, qui est le Numerorum Intestinorum Corpus Novus Sive Intestum, ce qui veut dire effectivement que le corpus des petits livres intérieurs, intestins, en fait, Intestinorum Intestin, comme si, en fait, ils ont pris la métaphore du corps à la lettre, et donc ben, voilà, on fait des corpus avec des intestins complètement digérés. C'est à partir de 1958, c'est finalement un corpus qui va rassembler les textes pataphysiciens et finalement qui est une partie de la métaphysique. On va retrouver la métaphysique d'ailleurs dans la suite de l'histoire des corpus. Alors, bon, on a vu tout à l'heure, la condition des corpus dépend des disciplines, des habitudes de la discipline, des objets, et c'est attention aussi, parce qu'elle veut faire avec des corpus. Donc, on a des différents ensembles, des différentes communautés qui, on va dire des humanités, mais les humanités, ce n'est pas toutes les communautés de l'ESH. Vous savez, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont vous dire qu'en fait, ils ne travaillent pas dans le domaine des humanités, mais dans le domaine des sciences sociales. Et cette séparation, qui est d'ailleurs extrêmement variable dans les pays et les traditions intellectuelles, pose problème, mais en même temps, c'est assez enrichissant pour justement les recherches interdisciplinaires. Donc, vous avez effectivement des chercheurs et des usagers des campus qui vont s'intéresser au contenu, bien sûr, par exemple, les historiens, les médias, les philosophes, etc. Les historiens du livre veulent absolument maintenir la forme du livre, parce que même la reliure, la reliure cassée est importante. Les historiens de l'art vont s'intéresser aussi à la fois à la forme et au contenu. Et puis, les domaines, les régions internationales, bien sûr. Et du côté à droite, on a l'intersection entre combinaison entre ce qui intéresse la recherche, ce qui intéresse la formation, bien sûr, dans les universités, et ce qui intéresse le monde de la culture, qui en France est un autre ministère, qui n'est pas d'ailleurs le ministère. Alors, nous avons un collègue qui est allemand, qui a repris la route dirigée au Moyen-Âge, c'était justement la route des disciplines. Maintenant, c'est cette répartition des disciplines, et il n'en a plus besoin d'en voir rien, donc je vous traduis, pas grand-chose, je vous traduis avec des trucs de mots. Donc voilà, un peu, essayer de définir les humanités numériques, sa roue de 2013, c'est-à-dire une époque où il y avait le terme de humanité numérique est bien installé, même si on en a discuté. Et en fait, la répartition des disciplines dans sa roue est principalement justement du côté des humanités. Dans une humanité numérique, vous avez effectivement chaque discipline va avoir son volet informatique dans cette répartition. La sociologie s'intéresse de très près à tout ce qui est la numérisation. Il n'y a pas de sociologue. Donc, c'est des discours très fréquents sur ce que le numérique doit changer dans la société, qu'est-ce que la société attend du numérique, etc. Donc, voilà une discipline qu'il faut ajouter. Il faut ajouter le droit pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des corpus juridiques, et par exemple, si vous connaissez Criminio Corpus, hein, voilà un corpus juridique très intéressant qui intéresse un peu tout le monde. Hein, c'est vraiment un corpus qui va rassembler les documents des histoires criminelles. Hein, et puis, sur un autre plan, parce qu'on a besoin du droit pour savoir quelles sont la propriété intellectuelle de ces données numériques, notamment quand elles ont été élaborées collectivement, quand elles ont été élaborées dans un partenariat public-privé qui est là et qui se complique, mais à qui les attribuer quand il n'y a plus pas d'auteur. LBVH, par exemple, je peux dire, c'est moi qui ai trouvé le don quand je suis assuré d'avoir fini tout seul à ce moment-là. Dans quelques années, ça sera attribué à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est une question de propriété intellectuelle, de valorisation patrimoniale aussi, et ça, c'est encore ça, autre chose, relève, bien sûr, des questions juridiques, et c'est un domaine qui est en danse, et donc, développé énormément. Alors, bien sûr, il manquait l'économie, et ça me paraissait, parce qu'effectivement, le numérique, c'est un marché. Bon, ça coûte, certes, mais ça rapporte également. Et donc, le marché du numérique, dont on entend parler tous les jours, c'est un élément qui n'a pas été pris en compte dans cette belle roue, parce qu'elle était roue, qui était construite sur les humanités pour la recherche. les unités pour le travail recherche, ne sont pas du ciel. Elles sont quand même dans un environnement social, un environnement politique aussi, dont on ne peut pas entendre toute la famille. À ajouter aussi la géographie, hein, qui pour le moment n'est pas, alors que les données spatiales, là aussi, sont très importantes, et sont associées à tous les corpus. Et puis enfin, psychologie, sciences cognitives. Donc, je suis proche entre la philosophie et la linguistique, parce qu'effectivement, on est dans un domaine qui, souvent d'ailleurs, n'élabore pas de corpus, mais en revanche, va en parler. Il va dire ce que ces corpus apportent, non seulement de quantité de connaissances, mais de qualité ou de non-qualité des connaissances. Donc, plus de la réflexion même sur les écrans, sur les lectures sur l'écran, enfin, tous les travaux sur la lecture, ça se trouve dans ce livre-là. Donc, j'avais ajouté ce qui s'appelle méthode digital humanities, hein, c'est-à-dire la réflexion sur le numérique, et donc qui est quelque part principalement par les sociologues, par les psychologues, par les psychologues, les sciences cognitives, etc. Ça, qui est un élément important. Donc, réflexion sur les différents corpus. Donc, vous présenter un peu le moment. Alors, c'est évidemment la barrière entre les sciences sociales et les humaines, évidemment, nombreuse, hein, mais aussi des historiens qui se considèrent plutôt du côté des sciences sociales, d'autres qui se considèrent plutôt du côté des sciences humaines. Alors, qui est historien déjà, c'est là-bas, et donc plutôt des sciences sociales ou des sciences humaines? Humaines, quel est votre objet? Alors, oui. Sur le soir, oui. Oui, bon, alors effectivement, ça dépend comment on les étudie aussi, c'est vrai qu'on peut se situer d'un côté ou de l'autre, ça dépend aussi si vous travaillez seulement avec des statistiques, hein, c'est vrai, on peut voir des copains. Certains, c'est retrouver plutôt, effectivement, de l'autre côté. Et puis, bien sûr, l'aspect mathématique et informatique est très important. Non, là, je vais distribuer les documents. Et puis, donc, la partie mathématique et informatique qui fait qu'on parle maintenant d'humanité numérique, ou même d'humanité scientifique. Hein, j'ai lu ça sous la plume de Cyril Vigali il n'y a pas longtemps. Donc, humanité scientifique, là, ça, c'est plus trop, d'ailleurs. Mais il va falloir qu'ils redéfinissent un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'informatique, bien que ce soit l'informatique principalement, apporte, en tout cas, ici, le traitement des corpus. Mais avec les statistiques, c'est un peu différent, puisque là aussi, les études sont très centrales. Donc vous avez pris les grandes répartitions, traitement du signal image, traitement du signal son, des vidéos, traitement des chaînes de caractères, c'est vraiment les grandes divisions très importantes. Avec justement les statistiques, les traitements totales, le traitement automatique du langage, l'analyse des matériaux qui va se faire effectivement aussi avec les traitements informatiques, et les données spéciales. Bon, bien sûr, chez les géographes et les procédures de visualisation qui sont très à la mode. Alors, donc, dans les humanités numériques, avant que ça s'appelle comme ça, on avait effectivement, on a vu tout à l'heure des corpus linguistiques, Frontex, et Perseus. Perseus, c'est ce qui rassemble les grands corpus de grec et latin qui ont été déjà constitués il y a assez longtemps, hein, il y a plus de 20 ans. Les bibliothèques payantes maintenant sont accessibles gratuitement et extrêmement utiles, extrêmement importantes. Les bibliographies, bien sûr, et les premiers corpus d'auteurs, le tout premier corpus d'auteurs que l'on connaisse, ce sont les œuvres complètes, les opéras de Thomas d'Aquin, que Révérend Père, le Père Bussy, a transcrit à l'époque les cartes perforées, les grands auteurs, donc à partir de 1962, ça remonte effectivement à un certain temps, mais du coup, il pouvait traiter toute l'œuvre de Thomas d'Aquin, avec la thématisation du latin, de façon extrêmement, extrêmement élaborée. Ensuite, on s'est dit assez rapidement, la Bible, alors, la Bible sous différentes formes, pour nous, c'était un interventaire en rabais traité par le logiciel d'analyse linguistique Hyperbase, hein, de Michel Gonnet à Nice, en 1994, il y a assez longtemps, et diffusé d'abord sous la forme CD-ROM et immédiatement après, en 1995, en ligne. Et puis, c'est à partir de 1986 que la communauté de la CDI commence à s'organiser pour donner des balises sur lesquelles tout le monde se met d'accord pour décrire les objets, pas seulement visuels, mais d'abord visuels. Parallèlement, se constituaient des corpus visuels qui n'avaient pas ce nom-là, hein, après que c'était déjà des corpus visuels, avec la numérisation de microformes. Évidemment, maintenant, on peut découper quand on voit ça, c'est vraiment de très très mauvaise qualité, mais pendant 10 ans, on était content d'avoir ça, parce que c'était ça, ou aller à la bibliothèque pour aller voir la même chose, dans les microformes. Et puis, les débuts de la photo numérique, et dans les années 80, comme on a fait, parce qu'il y a un problème, par exemple, 93-94, les photos numériques en couleur étaient extrêmement lourdes. Et aucun ordinateur portable personnel, pas portable ou pas d'ailleurs, aucun ordinateur ne supportait ces images qui s'affichaient en couleur terrible. Bon. Et je ne parle même pas des grandes lignes, je parle même de l'ouverture de ces photos numériques sur ordinateur. Bon. Et puis en même temps, bien sûr, des travaux statistiques, alors principalement sur les données sociales, mais pas seulement, aussi sur les données textuelles. Alors, la Fondation des humanités numériques, on peut dire qu'elle a précédé la Fondation internationale, a précédé la Fondation nationale, on va remonter à peu près avant les années 2000, avec des fédérations, des organisations qui sont d'abord. Constitués de façon disciplinaire. Maintenant, on a des satellites hein, qui sont une espèce de répertoire, des DDH sur le satellite international. Et sur le plan national, ce sont les projets du corpus linguistique, bien sûr, qui existaient déjà à l'Institut national de la langue française, et puis les projets de numérisation de la bibliothèque nationale qui ont commencé à être. Planifié en 1993. Il a fallu attendre, c'est-à-dire 97, pour que le planifiant soit ouvert, soit mis en route. Il y a eu des changements politiques entre les deux, donc ce qui avait été prévu extrêmement cher, hein, bien sûr, a été retardé. Et c'est effectivement en plus lorsque Google a lancé Google Books en 2002 que là, la bibliothèque nationale a réagi et a donné à Gallica une quantité vraiment l'aspect non seulement numérique mais quantitatif est apparu comme étant absolument indispensable pour l'orgueil national. En 2010, il est publié un manifeste des humanités numériques, notamment par le CLEO, hein, le Centre d'édition électronique verte, en réclamant non seulement l'ouverture des données, c'est-à-dire que les données ne soient plus les propriétés, notamment des éditeurs privés, mais il y a aussi beaucoup de données qui ne sont pas diffusées alors qu'elles sont produites par les universités ou par le CNRS. Parce que les chercheurs qui les ont élaborées, qui les ont produites, disent « Ah oui, mais ça n'est pas encore prêt, c'est pas fini. » C'est jamais fini. C'est pas fini. Ou simplement, je ne veux pas que n'importe qui s'en serve. Il peut y avoir aussi cette frilosité pour aller les données. Donc le manifeste a jeté un pavé dans la mare et donc on est invité à signer ce manifeste et à se rassembler derrière cette proclamation en faveur de l'ouverture des données. C'est-à-dire qu'il y a encore, c'est encore valable. Et l'autre revendication, c'est celle de l'existence d'un champ qui s'appelle les humanités numériques. Et qui, en France, bon, jusque. Justement, 2008-2009, le tournant, Laurence, c'est là, 2008-2009, l'expression commence à tourner en anglais, hein, un écrit, ça va pouvoir être traduit en français d'ailleurs. Hein, il y a deux traductions, que vous savez, une qualité numérique et une qualité digitale, qui est un anglicisme. Qui est un anglicisme, qui quand même peut-être va l'emporter, là on ne sait pas encore. La traduction officielle, c'est l'humanité numérique. Le digital, c'est quand même trop loin. C'est pas exactement le sens français. Alors, vous savez, les humanités numériques produisent des outils, pas seulement des données, mais il faut effectivement des outils qui accompagnent les problèmes de la TU pour le moment, c'est de ne pas avoir de logiciel facile, ergonomique, pour justement traiter les textes sans avoir à baliser à la main et puis les chevrons les uns après les autres. Et donc ça, ça me dit du temps. Ça existait, mais ce n'était pas très répandu, surtout les logiciels de web étaient pas forcément propriétaires, mais produits dans différents endroits, différents laboratoires, tous certains objectifs. Des outils de traitement, des logiciels standards, des plateformes, des logiciels, des indexeurs, des moteurs de recherche, etc. Ça, vous connaissez sans doute. Des logiciels pour la fouille de données, donc le big data, effectivement, il faut qu'ils soient robustes. Il y a certains logiciels qui marchent très bien, mais sur 10 mégas, pas sur 10 terras. Hein, donc c'est beaucoup de données. Donc là aussi, la montée en charge est très importante. Ce qui est très important aussi, c'est si les données sont stockées sur un ordinateur dans un laboratoire, ou si tout se fait en ligne. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, bien sûr, en ligne, l'augmentation est de plus en plus visible. On a de plus en plus de logiciels qui fonctionnent sur les données en ligne, mais ça n'est pas si évident que ça. On a quand même des problèmes de débit. Tout le monde n'a pas de super débit chez lui. Les accès sont différents. Et puis, les outils de diffusion qui sont très importants. Vous n'avez pas de serveur, vous n'avez rien à faire. Donc, on voit pour les données en ligne. Il y a une documentation qui doit accompagner ces boîtes logicielles, sinon on ne sait pas comment s'en servir. Des revues qui vont publier le plus rapidement possible des articles qui vont évaluer aussi ces corpus et les outils et la manière de les traiter, les blogs et les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ça sert pas beaucoup, mais parce que ça prend du temps et finalement. De publier quelque chose qui soit présentable, hein, plutôt que de discuter à l'infini dans des conversations qui ne restent pas forcément grand-chose.